France Culture.
Я уже куда-то это не дал, что Хавдар... Красная армия Китая подошла к городу Шанхаю, и у Шанхая уже не было сил, которые бы могли защищать этот город. Черепишинских, я имею в виду все.
Déjà, s'il fallait raconter une histoire, peut-être qu'il faudrait commencer par dire... Imaginez un monde où Internet n'existe pas, où il n'y a pas de réseaux sociaux, où il n'y a pas de téléphone portable, et surtout un monde où les gens lisent des livres. Les livres sont une arme. Une arme des relations internationales, une arme de la guerre froide.
Все-таки Красная армия в Китае не вступала в этот самый город Шанхай.
Воспоминания Никиты Хрущева.
Une histoire particulière, les mémoires de Nikita Khrushchev. Marie Chartron, Franck Lilin. Second épisode, le messager.
Второй эпизод. Посланник.
So there's a story about Nikita Khrushchev wearing two very colorful hats.
Il faudrait raconter l'histoire suivante. Nikita Khrushchev porte deux chapeaux très colorés dans son jardin. Cette histoire ne parle pas seulement d'un vieil homme qui fait une chose ridicule.
En
réalité, ces chapeaux étaient la clé pour que ses mémoires puissent être publiées aux États-Unis. Voilà ce qui s'est passé. Son fils, Sergei Khrushchev, est passé par un intermédiaire. Un personnage très curieux nommé Victor Louis.
Et
il a organisé la publication des mémoires de Nikita Khrushchev à l'étranger.
La matière première de ses mémoires, la voici. En pleine guerre froide, Nikita Khrushchev, relégué dans sa datcha, s'enregistre plus de 600 heures sur bande magnétique de 1966 au début des années 1970.
Alors, la datcha de Khrushchev, elle est surveillée. Il y a des gardes qui, en permanence qui sont là, des micros partout. Donc les seuls endroits où on peut parler à peu près librement, c'est le jardin. On se promène, voilà. Peut-être que le premier élément qui inquiète les autorités, c'est un documentaire américain, diffusé par la chaîne NBC le 11 juillet 1967, un documentaire consacré à Khrushchev, la télévision américaine. Et un documentaire qui se termine par des images de Khrushchev à sa datcha, retraité, donnant des interviews. Brejnev l'apprend, il est hors de lui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi des images ont été tournées? Aucun journaliste soviétique et encore moins américain n'a jamais eu l'autorisation de venir à la datcha, en fait. En tout et pour tout, il y a eu 2 minutes d'images de Khrushchev qui ont été tournées. Mais par qui? Par qui? Par un certain Victor Louis. Victor Louis. Un journaliste. Soviétique, certes. Mais unique en son genre. Qui, grâce à sa proximité avec la famille Khrushchev, notamment avec Sergueï, est venu à la datcha avec une caméra, tourner ses images, qu'il a ensuite vendues à la chaîne NBC. Et là, c'est tout un pan d'une histoire secrète sur laquelle il faudrait revenir pour comprendre qui était Victor Louis, pourquoi il était là, et pourquoi la colère de Brejnev n'aurait-il pas été au courant de cette histoire? Un mystère. Après cette affaire du documentaire, Khrushchev décide d'accélérer la dictée. Il se rend compte que certainement les autorités sont au courant, que Demain, peut-être, les gens du KGB viendront lui confisquer ses bandes enregistrées ou son magnétophone et qu'il ne pourra plus le faire. Que c'est un peu l'œuvre de sa vie, quand même.
Il rentrait Victor Louis dans des conditions, disons, assez banales. L'écrivain Yevgeny Popov, dont je faisais publier au même moment un roman aux éditions du Seuil, m'a invité un soir quand j'étais à Moscou, bien entendu. Je crois que c'était en août 89, si mes souvenirs sont bons, mais à mon âge, les souvenirs, faut s'en méfier, à dîner avec Victor Louis.
Jean-Jacques Marie, historien.
Je n'ai gardé de ce dîner à peu près aucun souvenir parce que je ne crois pas que Victor Louis m'ait dit quelque chose de vraiment significatif. Je pense qu'il avait un physique qui lui facilitait le fait de jouer le rôle qui était le sien, à savoir de servir d'intermédiaire entre la police politique et les milieux occidentaux, à la fois de la politique et de l'intelligentsia, parce qu'il était bien introduit dans ces milieux-là, entre autres en Angleterre. Il avait un aspect un peu homme du monde, élégant, me semble-t-il. Oui, élégant. Il n'avait pas l'aspect, disons, traditionnel du bureaucrate soviétique de l'époque. Il avait un aspect plus occidental, disons. Et je pense que c'était important pour le rôle qu'il avait à jouer, et qu'il a joué, entre autres, pour les mémoires de Khrouchtchev.
C'est Victor Louis qui est, on le pense, le principal artisan de cette histoire. Enfin, c'est l'intermédiaire. Victor Louis, bien sûr, l'intermédiaire. C'est Victor Louis qui convainc Sergueï de la nécessité de publier et de ne pas traîner avec la publication. Il ne faut pas traîner. Donc il faut préparer ce manuscrit. Il faut préparer ce livre. On ne peut pas livrer brut de décoffrage toutes ces bandes, toutes ces retranscriptions. On en a pour des centaines de pages. Des centaines et des centaines de pages. C'est une opération qui sera clandestine. C'est Victor Louis qui va prendre contact avec un éditeur, avec le groupe Time, qui est un représentant à Moscou. Victor Louis est journaliste, qui travaille pour un certain nombre d'organes de presse britanniques, mais aussi américains. Victor Louis, il est connu depuis la fin des années 50. C'est un personnage absolument fascinant. Le seul journaliste indépendant, entre guillemets, bien sûr, indépendant, à l'époque soviétique, qui vit en URSS. Victor n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Vitali. Louis, son vrai nom, mais il l'a francisé, censé rappeler, voilà, des origines soi-disant françaises, mais aussi allemandes. Enfin, il est né en 1928, en Union soviétique. C'est un garçon qui est très doué pour les langues. Il fera de l'anglais à l'école. Après la guerre, juste après la guerre, il va se trouver des petits boulots très particuliers à Moscou. Il va travailler avec plusieurs ambassades étrangères, dont l'ambassade américaine, puis brésilienne, puis néo-zélandaise. Alors on dit, quel rapport? Toutes ces ambassades se trouvaient à peu près au même endroit à Moscou, c'était facile. Donc il faisait des petits boulots, il apprend l'espagnol en fréquentant des réfugiés de la guerre d'Espagne, il apprend le portugais un petit peu, etc. Et il finit par être attrapé à sa majorité par le NKVD, l'ancêtre du KGB, qui l'arrête, et on est à la fin des années 40, qui lui colle une accusation donc pour espionnage, comme c'était courant à l'époque, et qu'il envoie pour 25 ans au goulag. Bon, c'est la biographie officielle, certains vont douter de cela, vont se dire qu'il a déjà été recruté avant. Donc il en prend pour 25 ans, c'est un homme qui est très doué, encore une fois, pour le contact humain, c'est un type qui a des facilités, il présente bien, un visage avenant, etc. Voilà, il en a pour 25 ans, il est envoyé très loin, dans la République des Commis. Un camp où il va, encore une fois, aussi s'illustrer comme homme d'affaires. Il va trouver, lier langue avec les autorités du camp, va s'entendre avec eux et gagner une réputation de délateur aussi. Qu'il espionne ses copains de prison pour apporter leurs faits et gestes à la direction, ce qui lui vaut un régime tout à fait favorable. Peut-être qu'à ce moment-là, il est repéré déjà par les services secrets, on se dit qu'il pourrait être utile. Voilà. Il finit par sortir de prison en 1956, suite à une amnistie. C'est à Khrouchtchev qui doit sa libération, donc. C'est à la déstalinisation. Et quand il va faire connaissance de Sergueï Khrouchtchev, il va présenter toute cette histoire en disant « Moi, Victor Louis, j'ai été libéré de prison grâce à ton père et je veux lui rendre ce service. Et voilà, je veux transmettre ses manuscrits et les faire publier en Occident. »
So Victor Louis was a shadowy figure.
Victor Louis était un personnage de l'ombre.
He was not averse to.
Il n'avait rien contre l'argent.
Money. It doesn't seem like he was an ideologue.
Apparemment, ce n'était pas un idéologue. Il avait trouvé un moyen de gagner de l'argent en Union soviétique et il excellait dans ce domaine.
He was very good at it.
Ross Öfberg, écrivain et traducteur.
So Sergei, I believe Sergei told me a couple anecdotes.
Sergei m'a raconté quelques anecdotes.
Victor Louis had arranged for the publication of My Fair Lady in the Soviet Union.
Louis avait orchestré la publication de My Fair Lady en Union soviétique et avait réussi à empocher tous les droits d'auteur. Il n'avait pas écrit ni traduit le texte.
Made out very well from this arrangement.
Mais il en a tiré un excellent
and
profit.
It's unclear
et on
ne
comprend pas vraiment pourquoi les soviétiques lui ont permis de garder tout l'argent.
What happened to the rights holders on the other side of the transaction?
On ne comprend pas ce qui s'est passé avec les détenteurs des droits de l'autre côté de la transaction.
Solzhenitsyn.
Il avait aussi publié une interview avec Solzhenitsyn, que ce dernier prétendait être inventé de toutes pièces et pour laquelle Louis avait été payé.
Louis also went on to arrange at the behest of the Soviet
Louis avait aussi organisé, à la demande des autorités soviétiques, la publication en Occident des mémoires de Svetlana Alilouyeva, la fille de Staline, qui avait écrit des mémoires très critiques à l'égard de Staline. Les Soviétiques savaient qu'ils allaient être publiés.
And the Soviets knew it was going to come out.
Ils savaient ce qu'essayait de faire Alilouyeva. Et grâce à Victor Louis, il s'était arrangé pour qu'une version expurgée de ses mémoires soit publiée à l'Ouest.
Publish in the West a redacted version of her memoirs, which they hoped would come out.
Ils espéraient attirer toute l'attention avec la primeur de cette version peu subversive, de manière à atténuer l'impact de la version authentique à sa sortie quelques mois plus tard. Je pense que ça a fonctionné. Là encore, Louis a été payé pour faire
ça.
Ce n'est pas comme s'il s'était fait payer pour redistribuer ensuite les bénéfices. Non. Apparemment, il gardait tout pour lui. Il avait une immense maison à Moscou, deux voitures de luxe et probablement la seule piscine privée de toute la Russie. Il réussissait donc à gagner de l'argent tout en étant une espèce de facilitateur pour le KGB. Et il semblait n'avoir aucun scrupule à s'approprier ce qui appartenait à autrui pour en empocher les bénéfices.
Really belonged to other people and pocketing the proceeds.
À sa sortie de prison, il est recruté par les services secrets. Nous sommes en 1956, encore une fois, c'est deux ans après la création du KGB. Le KGB voit le jour en 1954. Et le KGB est très intéressé par son profil. Ancien zec, c'est-à-dire ancien prisonnier politique, hein, politique très important, condamné sur la base de l'article 58, crime contre-révolutionnaire, espionnage au profit d'une puissance étrangère, propagande anti-soviétique, etc. C'est très important. Donc il a cette aura d'ancien prisonnier politique qui fait qu'il aura forcément ses entrées auprès de tous les opposants et qui pourra rapporter faits et gestes de ses opposants aux autorités. Parce que le KGB, contrairement au service secret de Staline, se veut un organe légal qui ne pratique pas la torture, qui n'emprisonne pas les gens pour un oui ou pour un non, mais qui préfère surveiller la population. Et l'arrestation doit être perçue comme la dernière des solutions, finalement. Et sans doute, Victor Louis n'est pas le seul, hein, à avoir servi d'intermédiaire entre le KGB et la société civile. Mais il leur rend des grands services et le KGB l'autorise à faire des choses qu'aucun autre soviétique ne serait autorisé à faire. Son métier, c'était journaliste, correspondant international de plusieurs organes de presse à Moscou et qui fournissait un certain nombre de scoops, c'est ça qui faisait sa réputation. Des scoops qui étaient vrais, véridiques. On va voir 1964, l'éviction de Khrouchtchev, ce sera le premier qui va l'annoncer.
Donc il savait manifestement manier la jonction, disons, entre ses intérêts personnels et les intérêts, disons, de la police politique, avec lequel il avait manifestement une certaine, à la fois, indépendance relative.
Absolument, tout à fait. Victor Louis est un agent d'influence. C'est l'un des meilleurs agents d'influence que le KGB n'ait jamais eu. Je ne saurais pas vous dire exactement dans quel service il était. C'était une opération évidemment très secrète. Les agents du KGB, quand on les interrogera là-dessus, vont toujours nier en disant que non, non.
And Sergei met him in Moscow.
Sergueï l'a rencontré à Moscou.
Told him the story, and Victor Louis.
Et lui a raconté l'histoire des mémoires.
Got a copy of the tapes of the manuscript, and
Victor Louis a reçu une copie des bandes du manuscrit.
How we took them out, I don't think anybody to this day knows.
Et les a fait sortir de l'Union soviétique. Comment il les a fait sortir? Je ne pense pas que quiconque le sache jusqu'à aujourd'hui.
Sergueï took it upon himself to figure out a way to get.
C'est Sergueï qui a pris l'initiative de faire sortir les bandes et le manuscrit de l'URSS.
So they made a copy of the tapes, and they had a copy of the transcript. So Victor Louis understood that he needed to get in touch with the American
Victor Louis
publisher,
a compris
American
qu'il devait entrer en contact avec un éditeur ou un journaliste américain.
And he knew Gerald Schechter, who was the bureau chief of Time Magazine's Moscow bureau.
Il connaissait Gerald Schechter, le chef du bureau moscovite du Time Magazine. Il lui a dit, j'ai un manuscrit, ça vous intéresse? Schechter a répondu, quel manuscrit?
And Louis said, these are
Louis a dit,
Molotov's memoirs. Molotov was
ce sont les mémoires de Molotov.
Stalin.
Molotov était un ministre de Staline.
Schechter said, yes, I'd definitely be interested.
Et Schechter a répliqué,
and Louis said no more and waited
oui,
a few
je suis
weeks.
Très intéressé. Louis n'a rien ajouté. Il a attendu quelques semaines avant de reprendre contact avec Schechter
said, okay,
et lui a dit,
I told you that I had the memoirs of Molotov that I wanted you to publish.
Je vous avais dit qu'il s'agissait de publier les mémoires de Molotov.
That's not true.
Ce n'est pas vrai.
But I haven't heard any rumors
mais comme
about
le bruit ne s'est pas répandu dans Moscou,
Moscow, so I understand
et je ne m'ai pas revenu aux oreilles,
here's what
je
I
pense
really
que je
have.
Peux vous faire confiance.
And he told Schechter what he really had. He said, I have
voici ce que j'ai
the tapes
vraiment.
Of, and
bandes
the manuscript of Khrushchev's
et le manuscrit
memoir.
Des mémoires de Khrushchev. Ça vous intéresse?
Are you interested?
Et Schechter a répondu, absolument.
And Schechter said, absolutely. He'd be crazy to turn it down.
Il aurait été fou de refuser.
Donc cette opération visant à préparer le manuscrit pour publication, puis le publier, c'est une opération clandestine entre l'éditeur Time et Victor Louis. C'est de la clandestinité. Pour l'éditeur, il ne s'agit pas du projet Khrushchev. On parle du projet de Jones. Jones. Pourquoi c'est très important pour l'éditeur aussi, cette histoire de clandestinité? Il s'agit d'obtenir un maximum d'assurance que ce manuscrit est authentique. Et donc, pas seulement d'obtenir des textes, des retranscriptions, mais aussi les enregistrements originaux. L'éditeur insiste, et d'où l'énorme somme d'argent qu'obtient aussi Louis. Louis doit donner des bandes qui serviront à authentifier le manuscrit. L'éditeur n'est pas un idiot. Il a évidemment entendu parler de l'affaire des mémoires de Svetlana Allilouieva avant. C'est encore frais. Les gens de Time sont au courant du rôle de Louis, du fait qu'il a cherché à publier une édition pirate des mémoires de Svetlana pour limiter l'impact des véritables mémoires.
Gerald Schechter was worried that
Gerald Schechter était inquiet. Les bandes étaient peut-être des faux.
Which was a reasonable suspicion,
ce qui était en réalité un soupçon légitime étant donné l'ampleur de l'espionnage et des intrigues entre les États-Unis et l'Union soviétique. Convaincre les Américains qu'ils avaient quelque chose d'authentique pour les faire passer pour des imbéciles un an plus tard.
Make them look like fools a year later.
Cela n'aurait surpris personne.
Donc on veut un maximum de preuves que ces mémoires sont authentiques. Ces preuves, ce sont les bandes enregistrées.
Nous avons tiré un coup de feu. Les Finlandais ont riposté. La guerre a commencé. À l'époque, on affirmait que c'était eux qui avaient tiré les premiers. La question se pose, avions-nous le droit juridique, moral, etc. de faire ça? Juridiquement, bien sûr que non. Mais moralement, nous estimions avoir le droit de chercher à nous protéger et à trouver un arrangement avec notre voisin alors que notre État était menacé. Nous trouvions ainsi une justification morale à nos actions. Et la guerre a débuté.
Il y a un souci quand même avec ces bandes, c'est que la voix n'est pas toujours audible. Je vous ai parlé des bruits parasites, des avions. Il y a aussi le fait que la vitesse et ces bandes sont très différentes, de différents formats. Certains sont plus ou moins rapides. C'est pas toujours exactement la même voix, quoi. Mais globalement, on comprend que c'est la voix de Khrushchev. Il y a ces idiosyncrasies, quoi, on comprend, c'est lui. L'éditeur est rassuré sur l'authenticité de ce manuscrit. Et c'est là qu'on va charger Strop Talbot jeune diplômé de Yale, à l'époque il n'a que 23 ans, pour donner forme humaine à ce manuscrit. C'est un travail de titan, un travail colossal, qui comporte une part de réécriture aussi, puisqu'il va falloir réécrire tout un chapitre sur l'enfance de Khrouchtchev, dont il ne parle pas du tout sur ses bandes enregistrées.
Schechter
avait l'intention de publier des extraits des mémoires en feuilleton dans le Time magazine. Et l'éditeur américain, Little Brown, comptait publier l'intégralité en plusieurs volumes.
You know, as a whole in different volumes.
C'était le projet.
And so they worked together to do it. I think they were there was probably always.
Il y a probablement toujours eu une petite pointe. De...
And I spoke to Schechter about this.
J'en ai discuté avec Schechter.
You know, when you're dealing with
quand on négocie avec l'Union soviétique et avec un personnage aussi peu fiable que Victor Louis, je crois que Schechter a toujours été inquiet.
I think Schechter was always worried. What if I'm being played?
Et s'il se faisait manipuler?
So, yes, he got the tapes verified.
Alors oui,
but I don't think he was ever
100% il a fait vérifier les bandes.
Sure,
mais je ne pense pas qu'il ait jamais été sûr à 100% que c'était vrai.
Which is why he still insisted on getting.
C'est pourquoi il a insisté pour obtenir un signe de Nikita Khrouchtchev lui-même. Il en avait vraiment really besoin pour être absolument sûr que c'était bien les mémoires de Khrouchtchev.
Khrouchtchev's memoirs and not some brilliant fake.
Et non un faux génial.
Comment savoir si Khrouchtchev est d'accord avec l'idée de publier son livre? Il faut qu'il donne un signe. Et on va trouver une solution. Par Victor Louis, on va lui envoyer deux chapeaux. Deux chapeaux à large bord, un rouge écarlate et un chapeau noir. Et Khrouchtchev, qui se prend au jeu à ce moment-là, va se faire photographier avec ces deux chapeaux pour montrer qu'effectivement, il donne son feu vert à la publication.
This was a diplomatic coup. It was a real achievement to publish.
Cela a été un véritable coup diplomatique. Une vraie réussite de publier aux États-Unis les mémoires de l'ex-premier secrétaire de l'Union soviétique avant qu'ils ne soient publiés en Union soviétique.
In some ways, it's hard to understand today, I think, because
c'est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui parce que le livre n'occupe plus la place sacrée qu'il avait à cette époque.
Mais cette opération sera contrôlée en amont par le KGB et Victor Louis, en transmettant les manuscrits, les retranscriptions, va se charger de couper des passages qui risqueraient d'agacer Brejnev ou le reste du Politburo, tout ce qui ferait désordre. Qui est chargé de faire ça? Il y a en effet un moment où l'ensemble de ces retranscriptions et l'ensemble de ces bandes sont conservées par Victor Louis. Entre le moment où il les a, par Sergueï, et le moment où il les livre à Time. Il y a un certain nombre de semaines qui s'écoulent, si vous voulez. Et c'est le moment sans doute qui a été utilisé par le laboratoire du KGB pour travailler sur ces bandes, pour les couper, pour les trafiquer, et pour couper des passages qui étaient gênants pour la publication. Il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de passages qui ont été coupés volontairement par Khrouchtchev. Par Sergueï, avec l'accord de son père. Voilà. Une forme d'autocensure, si vous voulez.
Si la théorie, c'est que le KGB ait effacé ou expurgé certaines parties des mémoires, c'est assez surprenant, y compris pour Sergueï, qui connaissait intimement ses mémoires. Il n'a pas laissé entendre qu'ils aient été falsifiés d'une manière quelconque par le KGB.
Is it possible?
Alors, est-ce que c'est possible?
Almost anything is possible.
Presque tout est possible.
But nobody.
Mais personne impliqué de près dans cette histoire ne m'a laissé entendre que cela avait été le cas.
That was the case. Anything's possible, especially in.
Tout est possible. Surtout dans ce monde des années 1960, un monde d'espionnage, d'agents doubles et d'agents triples. Mais je ne vois pas en quoi le KGB aurait eu à y gagner.
Quelle est ma version de l'histoire? Le KGB s'était rendu compte que certaines choses ne pouvaient être empêchées, qu'il y aurait tôt ou tard une fuite. Plutôt que de chercher absolument à couper, à punir, à empêcher la publication, pourquoi est-ce qu'on ne publierait pas ces mémoires, mais sous une forme légèrement modifiée, ce qui permettrait de désamorcer l'effet potentiel qu'auraient présenté de véritables mémoires si elles venaient de fuiter à l'étranger. Il n'est pas d'autre part impossible du tout, même très probable, que tout le monde au sein du KGB n'était pas au courant de cette histoire. Une partie des forces du KGB était censée traquer les mémoires, les confisquer, les récupérer par tous les moyens auprès de Sergueï, et une autre partie, c'est une opération très secrète, était au courant de l'existence de Victor Louis et de la mission qui lui était confiée et était censée donc au contraire tout faire pour que les mémoires sortent sous une forme modifiée. Encore une fois, le facteur commercial ne doit pas être négligé. Ces mémoires ont rapporté énormément d'argent. Il n'est pas du tout impossible qu'une partie de l'argent touchée par Victor Louis a ensuite été récupérée par le KGB.
Une fois le livre publié, Sergueï en a reçu un exemplaire et l'a apporté à son père. Il s'attendait à une réaction forte. Mais au lieu de cela, Sergueï m'a raconté que son père avait regardé le livre, l'avait feuilleté, puis l'avait reposé, un peu déçu que toute son œuvre des dernières années, son testament politique,
his work of the last few years
était publié en anglais,
was published in English and not in Russian.
Et non en russe.
Khrouchtchev continue de dicter pratiquement jusqu'à sa mort. Il reprend, bien après que le livre est publié, il reprend ses dictées en février 1971. Il mourra le 11 septembre 1971, donc pendant les derniers mois qui lui restent, il va continuer à dicter sur des bandes. Ce que ces bandes deviendront, on ne sait pas trop, une partie sera peut-être conservée par Sergueï, mais surtout conservée par le comité central, qui aura demandé à ce qu'elle lui soit restituée, et Sergueï Khrouchtchev ne verra ces bandes que dans les années 90, et ces bandes lui serviront à publier 4 volumes de mémoire de Khrouchtchev, la version intégrale de ces volumes qui sortiront en 99.
C'était Une histoire particulière, les mémoires de Nikita Khrouchtchev. Second épisode, Le messager. Avec Andrei Kozovoy, Jean-Jacques Marie et Ross Höfberg. Merci au Centre d'histoire orale de l'Université de Columbia pour les mémoires de Nikita Khrouchtchev, qui sont enregistrées sur bande et conservées dans leur phonothèque, ainsi qu'à Valérie Kislov pour ses recherches et ses traductions. Et merci à Diffy Mariani. Voix Daniel Koenigsberg, documentation Anne-Lise Signoret, prise de son Éric Boisset et Marie Lepeintre, mixage Manon Houssin. Chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Marie Chartron réalisé par Franck Lilin.